Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bon début de semaine, auditeurs, auditrices et internautes de Radio Okapi, bienvenue dans votre magazine Bana Okapi, l'émission qui donne la parole aux enfants, aux jeunes et aux parents avec le soutien de l'UNICEF. Comme le jour s'essuie, mais ne se ressemble pas, Bana Okapi vous apporte aujourd'hui un nouveau sujet qui porte sur l'autisme. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, célébrée le 2 avril de chaque année, a été établie par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies le 18 décembre 2007 et vise à promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales de personnes autistes. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental précoce qui dure toute la vie. Il n'existe pas à l'heure actuelle de médicaments spécifiques pour l'autisme, mais une prise en charge adaptée permettant de mieux vivre avec l'autisme. L'autisme peut être repéré avant l'âge de 2 ans, mais le diagnostic est possible tout au long de la vie. L'autisme se manifeste par de troubles de communication, des intérêts ou activités obsessionnelles, de comportements à caractère répétitif ainsi qu'une forte résistance au changement. La personne présente aussi souvent des hyper- ou hyposensibilités sensorielles, son, lumière, couleur, toucher. Tous ces signes s'expriment avec des intensités variables. Comment comprendre l'autisme ? Aujourd'hui dans Bana Okapi, nous entrerons en contact avec les enfants autistes, leurs parents et des spécialistes de santé pour comprendre cette maladie et enfin proposer des pistes pour l'accompagnement et l'inclusion des enfants autistes. Pour ne rien rater, merci de rester à l'écoute de Radio Okapi. Moi c'est Christelle Fritzi à la présentation de cette émission et je serai là avec vous jusqu'à 17h heure de Kinshasa. Derrière la baie vitrée, il y a Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa. Christian Mapenda Noya Chris coordonne ses programmes sous la supervision de Jean-Marc Matwaki, Monfelele Dijano.
Okapi,
Le 2 avril, c'était la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. La Fédération de structures autour de l'autisme et personnes vivant avec handicap et troubles du neurodéveloppement au Congo, FHTC en sigle, a célébré le samedi 5 avril cette journée. L'événement Tous en bleu avec les enfants autistes a rassemblé plus d'une dizaine de structures œuvrant dans ces domaines sur le terrain de l'université Omnia Omnibus, transformé pour l'occasion en un joyeux parc de jeux. Le point avec Greta Lulendo.
Vêtus de bleu, couleur symbole de l'inclusion des personnes autistes, les enfants ont profité d'un espace ludique où certains s'adonnaient avec enthousiasme aux activités proposées, tandis que d'autres exploraient les lieux avec curiosité. Chaque structure présente a eu l'opportunité de mettre en lumière ses spécificités et son engagement auprès des personnes concernées par l'autisme et les troubles neurodéveloppementaux.
Le sport est très important pour les enfants vivant avec handicap, surtout pour les enfants autistes. Une fois, on a organisé un match, un enfant qui a été abandonné par ses parents, un enfant autiste, et cet enfant a commencé à jouer au foot, et du coup, l'enfant a commencé à crier. L'état, ce coup m'a piqué pour la première fois. Et j'ai vu maman Maggie commencer à pleurer, elle venait vers moi. Elle me dit, je n'ai jamais compris, cet enfant n'a jamais parlé, mais aujourd'hui l'enfant est en train de parler. C'est très important que les enfants fassent le sport.
Pour Nadine Waters, promotrice de l'école Les Amis de Daniel, l'initiative de la FAHTC vise à créer un front uni pour soutenir et défendre les droits des personnes vivant avec un handicap mental.
La fédération, ce sont les structures. J'ai pu réunir 58 structures. Et c'est ça le but de la FAHTC, c'est l'union, travailler ensemble pour plaider. Parce que la plupart quand on parle des personnes vivant avec handicap, on voit plus le physique. On oublie que le mental existe. À part l'autisme, il y a beaucoup, il y a trisomie, il y a tout ce qu'on appelle le trouble du neurodéveloppement. Alors l'union fait la force. De temps en temps, c'est vrai, le groupe est là, une personne ou bien une structure veut créer ou bien veut organiser quelque chose. Nous, les autres structures, nous devons accompagner, aider pour une même cause. Et à part ça, de temps en temps, organiser comme ça pour que, en tout cas, le gouvernement puisse voir que tout ce que le trouble du neurodéveloppement en sont vraiment dans le besoin. Parce qu'on est délaissé. On s'occupe plus des autres, mais nous, on nous a vraiment oubliés. Vous savez pourquoi? Parce que alors, peu importe quand, c'est un enfant congolais qui a droit à tout, a droit au sol, a droit à tout, à l'éducation, a droit à l'accompagnement, a droit à la prise en charge.
Un éclairage crucial sur la problématique de l'autisme en République démocratique du Congo a été apporté par le professeur docteur Dieudonné Ngala Mouloumé, expert en psychologie clinique. Il a souligné que le principal défi réside dans le retard de diagnostic, souvent lié à un manque de connaissance de cette condition.
La question de l'autisme actuellement, la plus frappante, c'est le retard du diagnostic. Nous allons nous poser la question parmi l'assistance, comment on appelle l'autisme en Lingala, en Chiluba, en Swahili, en Kikongo. Dès lors que nous n'avons pas cette définition dans nos langues, la prise en charge sera difficile. C'est comme ça, les Bakongo disent ce que vous commis, balakisio, que péché, ça c'est le Congo. Cette intelligence, vous avez appris à pêcher, mais il faut connaître la rivière qui a du poisson. Il faut qu'on vous montre. L'autisme aujourd'hui, son problème, c'est le diagnostic. Et dès lors que nous avons le diagnostic, nous allons recourir au vécu des parents, la famille qui vivent avec l'enfant autiste. Ce n'est pas facile. Nous avons le devoir de traduire l'autisme dans 4 langues nationales. Et que les gens, les parents qui vivent avec les enfants autistes nous disent ce qu'ils vivent réellement pour qu'ensemble nous puissions aider l'enfant autiste.
Parallèlement à ces moments de partage et de sensibilisation, une collecte de fonds spéciale a été organisée au cours de cette journée récréative. Les dons récoltés seront destinés à soutenir les enfants autistes de l'est du pays, témoignant d'une solidarité envers les familles et les structures de cette région. Cet événement a ainsi permis de conjuguer la joie et les jeux pour les enfants avec un message fort de sensibilisation et de solidarité envers la cause de l'autiste en RDC.
Merci à Greta Lulendo pour ces points. Les enfants autistes atteints d'autisme nourrissent eux aussi de rêves et des aspirations. Loin de clichés et des idées reçues, leur cœur déborde d'affection pour leurs proches et leur vie sont ponctuées de moments de joie partagés en famille et à l'école avec leurs amis. Devenir un grand basketteur pour l'un, embrasser la vocation sacerdotale pour l'autre. Ces aspirations exprimées avec une sincérité touchante témoignent d'une richesse intérieure souvent insoupçonnée. Greta Lulendo a tendu son micro à ces jeunes. Suivez.
Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Et donc, tu joues de là au basket?
Oui, des fois. J'ai manqué la menuiserie.
La vie, au cadre, au mother, au cadre, au mother, au dépose.
À la maison, tu aimes maman?
Oui.
Tu fais quoi?
Des campagnes,
c'est vrai,
c'est vrai.
C'est vrai,
c'est
grand. Qu'est-ce que tu
vas faire
dans la vie?
La vie, les gars, les parents, les gays, les
gens. Ah, donc toi, tu seras pasteur.
Oui, c'est la vie.
Mais c'est la vie. Ok. Donc, c'est la même chose. Ah, t'attendais qu'on s'est venu dans ton église, hein?
Oui.
Et, alors, dis-moi, si vous, tu seras heureux chaque jour.
Je suis heureux.
famille. La famille. Toujours, au lieu de on le met dans le cercueil.
Ça, c'est des amis, beaucoup d'amis.
On vit de bon bachala. Un bon bachala, il n'y en a pas d'autre.
Moi, ça s'appelle Brillage de Champol. Oui,
est-ce que tes amis et ta famille sont tout le temps avec toi, ils t'accompagnent, ils t'aident?
Pourquoi je dors tout seul? Pourquoi ils veulent grandir et se suivre? Mais la porte est bien pour toi, j'aime bien être avec toi. Avec
toi, au Capi. Encore plus d'infos.
Malgré les regards parfois condescendants de la société, la fierté de parents d'enfants autistes pour leur progéniture est palpable. Accompagner les développements de leurs enfants est une source de joie immense, mais le chemin est souvent semé d'embûches et de limitations. Face à ces défis, ces parents lancent un appel pressant à l'assistance du gouvernement, reconnaissant leurs propres limites face à l'ampleur de besoins. Ils ont partagé leurs espoirs et leurs préoccupations au micro de Greta Lulendo.
Comme un handicap?
Oui, je n'ai pas le choix. Je l'ai accepté comme ça.
Un handicap, tu vas pas faire un début chez moi pour voir des enfants qui n'ont pas envie, n'ont pas évolué, qui est là en vie, qui n'est pas différent. Ça fait des conditions de médecins. Donc, l'idée ou quoi d'autre ça, mais pas vraiment évoluer dans sa vie, le plan physique, mais aller, mais qu'ils ont appris, fait souffrance, voir le son, et puis là, continuer à voir et à se battre.
J'ai un peu bien y parler, et après, quelques temps, on a constaté qu'il ne parle plus. Il est devenu très calme et j'ai amené chez les neurologues, on l'a consulté, on a dit qu'il n'en fait rien.
Et l'enfant a appris que l'enfant est aussi. Comment avez-vous réagi?
En tout cas, je n'étais pas bien moralement. J'étais vraiment abattue, je pleurais tout le temps et on me consolait par-ci par-là. Mais de toutes les façons, lorsque j'ai consulté d'autres centres, comme Village Rendez-vous, là où j'avais commencé, allez, on m'a conseillé, on m'a moralisé, et j'ai commencé à m'adapter petit à petit jusqu'à ce jour.
Bon, on était confiants. On était confiants. Vous savez, quand il y a des filles, la première des choses à faire, c'est d'être calme, d'être positif. Si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas vous en sortir.
Quels sont les défis que vous avez rencontré et comment vous avez
pu trouver? Le défi, c'est d'humilier l'habitation avec le voisin. Là, c'est vraiment difficile qu'on puisse accepter l'enfant autisme facilement. Oui, il y a des rejets, il y a des guerres froides. Une fois que l'enfant est rejeté, il n'est pas accepté, il ne joue pas avec les amis. Donc, l'enfant est tout seul. Et là, quand les parents regardent ça, ils se sentent vraiment isolés, ils se sentent humiliés. Donc, tu ne te sens pas bien en fait.
Jusqu'à présent, d'abord, sa scolarité, chaque semaine, ma scolarité, le général, c'est ma pourtant. Donc, c'est patient ou bien, pour pouvoir faire face à toutes les charges liées à sa scolarité et à son éducation.
Et quels sont les
joies
et les bienfaits que vous avez en tant que parent?
Oui, je suis fier d'avoir été réussi comme un sommeil. Et je marche avec quelqu'un complète, je crois que
je ressens la joie parce que j'ai retrouvé les centres qui encadrent les enfants aussi.
Je marche avec quelqu'un complète, je crois que un enfant même pour tes autres enfants.
Comment accompagnez-vous votre enfant dans son développement et son inclusion?
De temps en temps, nous partons au rendez-vous chez les psychiatres ou les neurologues et on les prescrit. Et ils s'adaptent aussi au milieu de la société, comme ils sont à l'école. Comme moi, l'enfant est au Congo aussi. C'est un centre récréatif. L'enfant là-bas, il joue, il se développe, donc il est un peu libre à l'espace. joue et je vois, ça va. Parce qu'à l'hôpital, on nous aide avec le médicament et tout, il faut donner ça, il faut donner ça. Et au centre aussi, avec la récréation des enfants. Et l'enfant s'adapte, si ta petite, ça va.
Oui. Nous l'accompagnons par entre autres dans l'étude, notamment dans les activités liées à son développement, par exemple les organisés pour les enfants.
Quel conseil donneriez-vous aux autres parents qui vivent
une
situation
similaire? Non, les parents qu'il accepte l'enfant comme il est. Qu'il ne soit pas vraiment effrayé, il ne soit pas dans la honte et l'humiliation, qu'il ne se sent pas ça. Qu'il soit libre d'aller consulter les neurologues, d'aller dans d'autres centres. Il y a plusieurs centres maintenant.
Oui, par rapport aux autres parents qui vivent la même situation que nous leur dirons d'être forts. D'être fort, de se battre pour les enfants, pour les enfants qui ont choisi de donner ce recours. C'est la différence de l'enfant. Les parents, doivent être forts afin de surmonter les défis qui sont présentés pour le développement ou bien pour l'avenir des enfants. Nous, au gouvernement, d'être responsable. Le gouvernement doit prendre en charge les enfants avec un handicap mental.
Le message, celle-ci, c'est de soutenir les enfants autistes, les encadreurs, les fondateurs de centres autistes. Et n'oubliez pas aussi de soutenir les parents. Il y a plusieurs parents qui ont besoin de soutien. Donc, faire comme des ONG, comme les parents, vous pouvez créer même des sous-présidences pour les parents des enfants autistes.
Votre magazine Bana Okapi se poursuit. Merci de rester à l'écoute de nos programmes.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement. Pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Rebonjour à toutes et tous, merci à vous qui venez de nous rejoindre sur la 103.5 FM, la fréquence de la paix pour la suite de votre magazine Bana Okapi, une émission qui donne la parole aux enfants, aux jeunes et aux parents avec le soutien de l'UNICEF. Nous vous donnons aussi la possibilité de nous suivre sur www.radiokapi.net. Côté menu, nous parlons de l'autisme, ces troubles neurodéveloppementaux, souvent incompris. Dans la première partie de Bana Okapi, nous avons écouté les enfants ainsi que le parent. Dans cette seconde partie, nous allons également accorder la parole aux sociologues, psychologues et pédiatres pour savoir comment intégrer les enfants autistes dans la société. Je suis Christelle Fritti à la présentation de ces magazines, un programme coordonné par Christian Mapendano et à Chris avec la mise en onde de Dieudonné Nyangasa Onyangasa et la supervision de Jean-Marc Matwaki Monfelele Dijanou. Et bien, nous sommes là jusqu'à 17h, heure de la capitale congolaise. Les enfants vivant avec autisme font face à des défis spécifiques en matière de communication, de socialisation et de comportement. Ces particularités peuvent parfois complexifier leur intégration au sein de la société. Consciente de ces enjeux, les équipes éducatives jouent un rôle essentiel pour favoriser leur inclusion, notamment en milieu scolaire. Au complexe scolaire, Bon Départ par exemple, les éducatrices mettent tout en œuvre pour établir un climat de confiance dès le premier jour de la rentrée scolaire. Notre reporter Grace Mwezolo s'est rendu dans cet établissement pour recueillir les informations de Madame Popo Esther, éducatrice spécialisée auprès des enfants vivant avec autisme. Elle nous éclaire sur les méthodes d'accueil mises en place pour faciliter leur adaptation et leur épanouissement au sein de l'école. Suivez.
Madame Popo Esther, bonjour. Bonjour.
Vous êtes éducatrice au complexe scolaire Bon Départ à Kinshasa Limité. Quels sont les différents types d'enfants que vous enseignez dans votre établissement scolaire?
Oui, dans notre établissement scolaire, nous accueillons les différents types d'enfants tels que les autistes, les trisomies 21, les RI, les IMC.
Voilà, aujourd'hui nous parlons des autistes particulièrement. Comment accueillez-vous un enfant autiste dans votre classe, madame?
Oui, pour la première fois, ils sont accompagnés de leurs parents. Si un enfant vient, il est accompagné de son parent et c'est le parent qui va me donner le nom de l'enfant. Il va m'expliquer les problèmes qu'a l'enfant, son comportement qui gêne et comment il se comporte à la maison et qu'est-ce qu'on doit faire ici et comment il s'habille, comment il se communique.
Après avoir accueilli l'enfant, certainement vous commencez avec les enseignements. Alors, quelles adaptations pédagogiques mettez-vous en place, Madame Popo, pour répondre à ses besoins spécifiques?
Des adaptations pédagogiques, nous savons d'abord que des enfants autistes ou les enfants vivant avec autisme ont problème de communication, de la socialisation, des comportements. Pour ça, nous allons évaluer l'enfant, connaître son niveau et faire la configuration. Donc son niveau sur les plans communication, sur les plans comportemental et la socialisation. À ce moment-là, nous allons répartir des groupes. Il y a un groupe 1, groupe 2, donc groupe des faibles et groupe des forts. À ce moment-là, nous allons démarrer avec les apprentissages et voir comment les enfants vont évoluer.
Alors, vous venez de dire que vous évaluez les enfants autistes. Dites-nous, madame, concrètement, que faites-vous pour évaluer le niveau de ces enfants-là autistes?
Très belle question. Donc, en ce qui concerne la communication, on doit connaître est-ce que l'enfant parle et s'il ne parlait pas, comment il se communique? Par les gestes, par proximité, par pointage. Là, nous notons. Et s'il parle, est-ce qu'il a des mots? Il parle par des petites phrases ou il parle normalement? Et ça aussi, nous allons noter et on va voir comment les prendre en charge. C'est ça sur le plan communication. Et comportement, on va voir quel comportement qui gêne plus parce qu'il peut y avoir beaucoup de comportements. Et qu'est-ce qui gêne plus? Et on va prendre en charge en premier lieu pour aider les parents et l'enfant lui-même. Et en ce qui concerne les AVQ, ce que nous appelons les activités de vie quotidienne. Manger, boire, s'habiller et faire toilette. Et là, on va voir est-ce que l'enfant fait ses besoins dans les habits, est-ce qu'il fait sel, il part à la toilette. S'il ne fait pas sel, on les prend en charge. On l'accompagne à la toilette, on l'apprend comment on se déshabille, comment s'asseoir sur les pots ou la cuve. Et on va voir petit à petit l'habituer et jusqu'à ce qu'il va faire ses besoins sel.
Alors, comment favorisez-vous l'intégration de cet enfant autiste avec les autres élèves? Parce que vous encadrez plusieurs types d'élèves que vous venez de citer.
Premièrement, vous devez connaître que nous sommes dans une école inclusive. Il y a de l'intégration. On joue avec les enfants ensemble. S'il faut manger, ils mangent ensemble. On fait des promenades. Et à cela, on va les intégrer petit à petit. Et si l'enfant évolue bien dans ma classe personnellement, il doit évoluer, monter une autre classe et jusqu'à ce que l'intégrer dans l'enseignement normal. Oui, il y a niveau primaire jusqu'à 6e primaire. Et il y a aussi la classe que nous appelons une classe pratique. Là, ils vont faire la pratique, la cuisine, et ils vont faire la peinture, il y a aussi le jardinage et l'élevage.
Alors, Madame Popo, quelles sont les différentes activités que vous proposez pour développer les compétences et les talents des enfants autistes?
Oui, il y a beaucoup d'activités ici à l'école. Nous avons compétences à faire la cuisine, le jardinage et la peinture. Et sur la matière scolaire, si l'enfant évolue bien, concernant les matières scolaires, il va monter des classes et il va faire un programme normal jusqu'à obtenir son certificat ou aller au-delà.
Malgré l'enfant est atteint de l'autisme.
Si, c'est comme ça. C'est un enfant comme tout autre enfant. Il suffit de faire que l'enfant puisse s'adapter à notre monde et c'est fini. On va évoluer comme ça.
Et quelles sont les méthodes et techniques, madame, que vous utilisez pour dispenser une leçon à un enfant autiste et pour rendre plus compréhensive la leçon à l'enfant autiste?
Voilà, les enfants ont leurs besoins, leurs intérêts. Il faut d'abord connaître l'intérêt, le centre d'intérêt de l'enfant. Si tu connais son centre d'intérêt, si l'enfant aime beaucoup les jeux, tu vas faire apprendre l'enfant sous forme de jeux. Vous jouez avec l'enfant et il est en train d'apprendre. Si l'enfant aime beaucoup les chansons, vous allez chanter avec l'enfant et l'enfant va bien apprendre. Donc il faut vraiment connaître l'enfant, son souci, ce qu'il aime et nous adaptons comme ça et là nous allons bien évoluer.
Aujourd'hui, 14 ans d'expérience, donc vous êtes enseignante des enfants autistes, ça fait pratiquement 14 ans. Madame Popo, l'expérience d'encadrer les enfants autistes vous apporte quoi concrètement dans votre vie pratique?
Oh là là, de la joie de voir aider un enfant qui n'avait même pas un niveau. Et il a maintenant un niveau. Il faisait caca aux habits. Maintenant, il fait à la toilette. Il ne mangeait pas. Il commence à manger. Il ne parlait pas. Il commence à parler. Quelle joie! Et j'ai développé des qualités extraordinaires. J'entre dans les bains des autistes. Je deviens autiste des fois et j'ai une patience comme celle de Dieu. Donc, je suis fière et très contente d'aider un enfant autiste à bien évoluer et considérer comme tout autre enfant.
Un message à lancer aux autorités du pays, aux autorités scolaires, aux enseignants comme vous, aux parents et à tous les enfants qui vous suivent à travers la Radio Capi.
Il y a des messages d'abord à mes autorités de la place à l'école de nous soutenir toujours. On a la pension, on va vraiment beaucoup travailler. Nous voulons aider nos enfants à bien évoluer. Maintenant, au niveau de l'État, qu'on puisse prendre soin de ces enfants, ils sont des enfants comme tout autre. Il ne faut pas les négliger, il faut toujours les soutenir. Les parents qui n'ont pas de moyens, chercher à les soutenir pour que les enfants soient scolarisés et apprendre et devenir quelqu'un dans la société. Donc c'est ça notre souhait. Nous remercions beaucoup notre promotrice Madame Yoko et nos chefs qui sont là à nos côtés, nos collègues, pour qu'on se tienne main à la main et bien évoluer pour aider les enfants et les parents qui ont des enfants vivant avec autisme.
Madame Popo Esther, je rappelle que vous êtes éducatrice au complexe scolaire Bon Départ à Kinshasa. La Radio Capi vous dit merci.
Merci beaucoup.
Le défi qui entrave une prise en charge adéquate des enfants autistes sont multiples et interdépendants. Qu'il s'agisse de difficultés sociales et relationnelles, du poids, de contraintes familiales et financières ou encore de complexités liées à l'interaction sociale et à la compréhension de soi, l'accompagnement de ces enfants représente un véritable défi. C'est ce qu'affirme Kadi Mukulu, psychologue clinicien qui a partagé son expertise sur l'autisme au micro de Grace Mwezolo.
Mapendo Kaindo Kalaba, bonjour.
Bonjour Madame Guylaine, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Qu'est-ce que l'autisme et comment se développe-t-il chez un enfant?
L'autisme.
Voilà, comme je le disais tantôt, le défi qui entrave une prise en charge adéquate. Deux enfants autistes sont multiples et interdépendants, qu'il s'agisse de difficultés sociales et relationnelles, du poids de contraintes familiales et financières ou encore de complexités liées à l'interaction sociale et à la compréhension de soi, l'accompagnement de ces enfants représente un véritable défi. C'est ce qu'affirme Kadi Mukulu, psychologue clinicien qui a partagé son expertise sur l'autisme au micro de Grace Mwezolo. Suivez.
Monsieur Kadi Jean-Claude Mukulu, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les défis psychologiques spécifiques auxquels sont confrontés les enfants atteints d'autisme en particulier et leurs familles?
Pour les enfants vivant avec l'autisme, ce sont des enfants qui ont un certain nombre de défis. Il faut savoir que les enfants avec autisme ont un problème d'interaction sociale, c'est-à-dire ce sont des enfants qui vivent en retrait, en isolement. Ils ont un problème de communication. Il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui communiquent par de gestes, par de cris. Il y a aussi un problème de comportement, un comportement répétitif qu'on peut observer chez les enfants avec autisme, c'est-à-dire les enfants qui battent de main, qui bougent le main, ou bien il va pencher sa tête ou pousser des cris à tout moment. Il y a aussi un problème de la compréhension de soi par rapport à ce qu'il veut faire. À part ça, il y a un problème aussi, un défi en rapport avec l'autonomie. L'autonomie liée à l'alimentation, l'autonomie liée à l'habillage, aussi l'autonomie en rapport avec l'alimentation. Les défis maintenant sociaux et relationnels, ce sont des enfants qui ont du mal à comprendre les émotions d'autrui. Par exemple, vous êtes attristé, l'enfant a du mal à comprendre que vous êtes attristé. Il a du mal à lire le visage d'autrui pour comprendre ses émotions. Il y a les défis familiaux. Vous savez qu'un parent qui a un enfant avec autisme, généralement ce n'est pas un enfant qui a été souhaité parce que lorsqu'une mère est enceinte, il y a une notion d'un enfant rêvé, la mère se fait déjà l'idée de l'enfant qu'elle voudrait avoir, et par rapport à la réalité, l'enfant né avec autisme, cela engendre le stress. Il y a des mamans qui ont fait même des maladies psychologiques à cause de ce problème, du fait que la maman a un enfant avec autisme. À part ça, il y a un problème aussi financier. Vous savez bien que quand on a un enfant avec autisme, c'est un enfant qui va vous coûter cher. Il faut la prise en charge sanitaire, l'amener à l'hôpital pour les soins. Quand l'enfant a un problème neurologique ou comme l'épilepsie, par exemple, et c'est une maladie chronique et l'on retrouve chez les enfants avec autisme. Il y a les enfants TDAH, les enfants qui ont l'hyperactivité. Il faut parfois une consultation neurologique. Et scolariser aussi ces enfants, ce n'est pas facile.
Parmi les défis que vous venez d'énumérer, vous avez parlé de défis de la compréhension du soi. Alors, monsieur Kadi, dites-nous, comment renforcer leur estime de soi?
Pour renforcer l'estime de soi chez l'enfant avec autisme, d'abord il faut comprendre le type d'enfant ou le type de la personne avec autisme, parce que chaque cas autistique a ses spécificités par rapport à la personnalité, par rapport au comportement, par rapport à sa façon d'être. Chaque cas est spécifique. Il y a par exemple des enfants avec autisme, avec un niveau de compréhension très faible, c'est-à-dire un retard mental profond. Il faut savoir que quand il y a un retard mental profond, cela conduit également à un niveau de compréhension de soi très faible. Pour cette catégorie de personnes avec un niveau mental très faible ou retard mental profond qui ne parle pas, on va mettre en place le support visuel. C'est le support visuel qui va permettre à la personne d'arriver à comprendre. Par exemple, quand la personne ou l'enfant a fait des activités, il faut parfois acclamer comme nous faisons ici à l'école. On dit bravo, bravo, on acclame, on dit bravo et on constate que l'enfant sourit. Et il s'aperçoit par rapport à son niveau de compréhension qu'il a fait quelque chose de bon.
Et quelles stratégies d'adaptation qui peuvent aider les membres des familles particulièrement à faire face au diagnostic et à l'accompagnement d'un enfant autiste, monsieur Kadi?
C'est qu'il faut d'abord savoir que diagnostiquer l'autisme, c'est vrai, on peut diagnostiquer, mais ça crée parfois des problèmes, des tensions chez les parents. Vous savez que dans notre pays ou en Afrique en général, l'autisme n'est pas connu de beaucoup, de combien de mortels. Et lorsque on parle de l'autisme, généralement, il y a des gens qui viennent avec leur diagnostic social, c'est-à-dire, ils vous disent que non, c'est la sorcellerie, c'est parce que tel oncle a fait ceci, et telle tante a fait ceci, donc on a du mal à accepter le diagnostic scientifique que nous nous faisons. Là, c'est qu'il faut d'abord savoir. Maintenant, pour pouvoir aider les parents à accepter, comme l'acceptation d'ailleurs, c'est la première étape dans la thérapie. Comment est-ce qu'on peut accepter un problème comme l'autisme et son traitement si on rejette en bloc le diagnostic? D'abord, il faut aider les parents avec les explications. C'est à ce moment-là que les parents arriveront à accepter. Quand les parents ont accepté, et maintenant, c'est la prise en charge. L'accompagnement, c'est la prise en charge. Maintenant, nous allons mettre en place une prise en charge en rapport avec les difficultés chez les enfants. Comme je fais savoir tantôt, chaque cas est spécifique. Il y a des enfants qui ont un problème d'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. On peut citer l'alimentation. Un enfant qui ne sait pas manger, on doit lui apprendre à manger. Il y a des enfants qui ont un problème de la propreté. L'enfant n'est pas propre. Maintenant, on va mettre en place une prise en charge des toilettes. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner aux toilettes? Par exemple, chez nous, on peut faire un horaire de prise en charge des toilettes. En même temps, on va apprendre à cet enfant à s'asseoir sur la quille ou sur le pot et en même temps à remonter et descendre la culotte, par exemple.
En tant que psychologue clinicien, comment gérer les troubles émotionnels et comportementaux chez les enfants atteints d'autisme?
Je voudrais vous dire ce que nous pratiquons ici à l'école. Lorsque nous constatons les troubles de comportement, les troubles émotionnels, d'abord, il faut une bonne observation pour connaître les antécédents favorisant ces problèmes de comportement. Quand on a compris les antécédents, c'est en ce moment-là qu'on va décider qu'est-ce que nous allons faire. Je prends un exemple. Un enfant qui s'agite, on voit l'enfant s'agiter, c'est un comportement inadéquat qui gêne les apprentissages. Mais là, il faut bien observer. Mais l'enfant s'agite quand? Quel est le climat? L'aération de la classe. Qu'est-ce qui a fait que avant, qu'est-ce que cet enfant faisait? Mais pourquoi maintenant? Avant, par exemple, il était calme et maintenant, on le voit comment ça s'agit. activité. Peut-être, c'est la chaleur. Lorsqu'il n'y a pas de courant, effectivement, les ventilateurs ne vont pas fonctionner. Il y a des enfants avec autisme qui sont hypersensibles à la chaleur, voyez. Maintenant, l'enfant s'agite parce que il n'y a pas de ventilateur, le ventilateur ne fonctionne pas, il y a la chaleur. En ce moment-là, la prise en charge, c'est beaucoup plus facile. On va faire sortir cet enfant de la classe. Comme nous avons des arbres ici, on peut le mettre sous un arbre, là où il fait frais. Et nous constatons également par expérience que l'enfant va se calmer. Donc, la prise en charge, nous avons des méthodes, quand bien même sont internationales, comme la ABA, qui est analyse comportementale, comme je sais que j'ai fait savoir, c'est il faut analyser d'abord le comportement. D'abord, on observe le comportement, on cherche à connaître les antécédents, et dès qu'on a compris les antécédents, on peut également placer une conduite à tenir, par exemple, faire ceci dans le cas d'un enfant qui s'agite à cause de la chaleur, il y a beaucoup. Par exemple, il y a des enfants qui ne parlent pas. Quand un enfant avec autisme a du mal à parler, bon, on peut appliquer PECS que nous utilisons ici. On peut lui apprendre à se communiquer à base des images. Donc, à l'aide des images, l'enfant arrive à se communiquer. Et par rapport à tout ce que nous nous disons, nous travaillons en collaboration avec les parents. Parce que l'enfant ne peut passer 4 heures ici à l'école, mais le reste du temps, il le passe à domicile. Nous donnons des formations. Nous n'accompagnons pas seulement les enfants et aussi les parents. Il y a des formations, il y a des rencontres, des champs d'expérience entre parents que nous organisons et des formations pour apprendre aux parents comment vivre d'abord avec un enfant avec autisme.
Quel est le rôle du soutien psychologique dans l'intégration sociale et scolaire des enfants atteints d'autisme?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Les troubles autistiques sont complexe. Si on voudrait réussir l'intégration des personnes vivant avec autisme, nous devrions travailler toujours en équipe pluridisciplinaire. Il n'y a pas seulement le psychologue, mais aujourd'hui on parle du psychologue que je suis. Voyez, les psychologues arrivent à comprendre les comportements, comment la personne vivant avec autisme fonctionne.
Monsieur Kadi Jean-Claude Mokoulou, merci.
C'est moi qui vous remercie.
La santé de nos enfants est notre priorité absolue. C'est pourquoi nous vous encourageons vivement à participer à la campagne de vaccination contre la polio pour protéger nos enfants contre les maladies évitables et pour renforcer leur système immunitaire.
J'ai fait vacciner mon enfant pour lui assurer un avenir meilleur.
Faisons vacciner nos enfants du 10 au 12 avril 2025 dans les provinces ci-après. Kinshasa, au Lomami, au Katanga et Tanganyika de 0 à 59 mois. Et pour Tchopo et Maniema, de 0 à 15 ans.
Message du ministère de la Santé et ses partenaires.
L'autisme est un handicap et non une maladie aux causes clairement établies. C'est la définition qu'en donne Mapendo Muindo Kalava, technicien pédiatre, à l'hôpital général de Matanda à Butembo. Nous sommes au Nord Kivu. Selon cet expert, la spécificité des enfants atteints d'autisme réside dans un fonctionnement cérébral particulier qui peut les amener à des comportements distincts de ceux attendus. Face à cette réalité, M. Kalava insiste sur la nécessité d'une prise en charge holistique pour cette catégorie d'enfants abordant l'ensemble de leurs besoins. Mapendo Muindo Kalava est au micro de Guylaine Kasasia.
Mapendo Kaindo Kalava, bonjour.
Bonjour Madame Guylaine, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Qu'est-ce que l'autisme et comment se développe-t-il chez un enfant?
L'autisme n'est pas une maladie mentale. C'est un trouble de développement, c'est-à-dire une altération qui se met en place avant la naissance. Sont impliqués dans le langage, la motricité, la perception, les émotions et les interactions sociales. Cela veut dire quoi? Un enfant autiste a un problème de langage, a un problème dans la motricité, a un problème dans la perception, a un problème émotionnel, a un problème dans l'interaction sociale. C'est pourquoi à partir de 1996, l'autisme est connu officiellement comme handicap, non pas comme une maladie, j'insiste bien. L'autisme est associé à un retard mental. On ne connaît pas les causes d'autisme. Et certaines études ont montré un lien entre l'autiste et la génétique. Donc, il y a des familles où vous allez trouver beaucoup d'enfants avec autisme par rapport à d'autres. D'autres, ils ont dit non, c'était un problème lié à l'environnement. et d'autres jusqu'à présent ont continué à croire que c'est d'origine idiopathique, c'est-à-dire que l'origine réelle de l'autisme n'est pas connue. Quand on parle quelque chose d'origine idiopathique, cela veut dire que c'est d'origine d'abord inconnue. Le problème est qu'un enfant autiste peut sembler réagir étrangement, donc différemment, et éprouver des difficultés dans des relations sociales et dans la communauté. Donc ici, l'enfant semblerait être négligent et d'autres, il faut considérer un enfant comme un incapable. Son cerveau, ici le problème est au niveau cérébral. Donc le cerveau d'un enfant avec autisme traite les informations différemment d'autres par rapport à ce que nous prétendons avoir comme résultat. Donc le cerveau d'un enfant autiste traite les informations et des perceptions d'une manière différente des autres personnes.
Quels sont les signes et les symptômes de l'autisme chez le bébé et les jeunes enfants?
D'une façon simple, il y a absence ou quasi-absence dans le langage. Vous allez trouver un enfant avec un problème de langage. Vous allez trouver l'autre avec problème de la vision, donc il y a absence ou quasi-absence de la vision. Vous allez trouver d'autres enfants, ils s'intéressent plus aux objets, plus qu'aux personnes. Donc il va s'intéresser, quand il va trouver un objet, il va s'intéresser aux objets au lieu de s'intéresser aux gens. D'autres, vous allez trouver un enfant, vous avez l'impression que l'enfant n'écoute pas quand on le parle directement. Donc là aussi, vous allez trouver un enfant, il va se comporter comme un sourd. D'autres manifestations, vous allez les trouver chez un enfant, surtout à l'école maternelle. Beaucoup d'enseignants aussi, ils seront aussi capables aussi de diagnostiquer l'autisme, parce que vous allez trouver qu'un enfant, quand on dit de manipuler et jouer, de l'amener à gauche ou à droite, au lieu qu'il puisse l'amener à gauche, lui, il va l'amener soit derrière ou il va se comporter d'une telle ou d'autre façon. De façon à ce que vous allez croire qu'un enfant devient négligent ou incapable.
Alors, Mapendo Mouindo, quels sont les problèmes de santé courants chez les enfants atteints d'autisme et comment les prévenir ou les traiter?
Les diagnostics de l'autisme, donc, il n'existe pas de test médical. C'est pourquoi je vous dirais que ici, d'abord, ce que nous sommes en train de parler n'est pas considéré comme une pathologie, mais comme un handicap. C'est pourquoi je vais confirmer aussi qu'il n'y a pas de test médical particulier qui permet de diagnostiquer l'autisme. Pour poser un diagnostic de l'autisme, ici, les professionnels de santé observent seulement la capacité cognitive, la façon de communiquer, donc la façon dont l'enfant va se comporter avec les autres, sa façon aussi de communiquer avec les autres, la façon d'entrer en relation dans la communauté. Il y a aussi le problème de développement global. Vous allez trouver un enfant avec retard dans le langage, un retard dans la vision. Vous allez trouver un enfant avec difficulté de se comporter par rapport à son âge. Vous allez trouver un enfant qui est incapable, il devient incapable même de jouer avec les autres enfants. Soit il va se comporter avec brutalité, soit il y aura lenteur dans ses réactions. Autre chose, la façon dont vous gérez votre perception et les émotions. Ici, vous savez, il y a la façon de gérer un enfant ou de comprendre l'enfant par rapport à l'émotion. Vous allez trouver un enfant de 6 ans, il continue à faire une émotion qu'un enfant de 2 ou de 3 ans qu'il peut présenter. Ça aussi, c'est parmi l'autisme. Et vous allez trouver l'autre enfant, il va chaque fois agir soit avec brutalité par rapport à son âge. Ici, maintenant, vous allez me dire, comment est-ce qu'on va prendre la charge? Je vous confirme, madame, que la prise en charge de l'autisme est multidisciplinaire. Ici, nous avons besoin des médecins de famille, nous avons besoin des pédiatres, nous avons besoin des psychologues, nous avons besoin des infirmiers, nous avons besoin des ergothérapeutes, nous avons besoin des orthopédistes, nous avons besoin des psychologues cliniciens pour prendre en charge un enfant avec autisme, même voir des nutritionnistes et autres catégories de personnes. Donc la prise en charge est multidisciplinaire. Maintenant, ici, dans la prise en charge, qu'est-ce que vous allez chercher? L'objectif de la prise en charge est de faire connaître les troubles à la société et de se concentrer sur les besoins quotidiens des personnes hantées de ces troubles
mais aussi quels conseils donneriez-vous aux parents d'un enfant autiste pour l'aider à se développer et à s'épanouir?
Ici, la première chose, c'est de faire connaître les troubles aux parents et de comprendre l'enfant tel qu'il est. C'est pourquoi je vais vous dire que la prise en charge est multidisciplinaire. À supposer que vous avez un enfant qui a un problème de s'adapter à la marche, là vous allez chercher le kinésithérapeute. S'il a un problème, par exemple, psychologique, vous allez faire recours à une thérapie comportementale. Il y a aussi besoin de l'éducation. C'est pourquoi aussi vous allez appliquer ce qu'on appelle une thérapie éducative. Donc ici, la prise en charge n'est pas médicale, non. La prise en charge est multidisciplinaire. Là où vous allez aider aussi les parents par rapport à la prise en charge, c'est d'aider l'enfant à faire que l'enfant soit capable soit de marcher, de parler, soit de s'adapter à une situation par rapport à la communauté. Donc, vous devez chercher à intégrer coûte que coûte l'enfant dans la communauté.
Mapendo Mwindo Kalava, merci.
Je vous remercie.
Okapi, Netabendi Yamani.
Longtemps mises à l'écart, les personnes autistes continuent de se heurter à l'exclusion sociale et à la marginalisation au sein de la société congolaise. Face à cette réalité persistante, les sociologues Thierry Mouchindou Kalaki, origène, également enseignant à l'Institut supérieur pédagogique en province du Nord-Kivu, lance un appel pressant au renforcement du cadre juridique en leur faveur. Dans cet entretien accordé à Kelvin Baeni, il insiste sur la nécessité d'accorder aux personnes autistes la même protection et le même droit que ceux dont bénéficient les autres citoyens congolais.
Monsieur Thierry Mutsindou Kalaki, origène, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous êtes sociologue et enseignant des ISP, Institut supérieur pédagogique en province du Nord Kivu. Est-ce que nous pouvons savoir comment la société perçoit les personnes autistes?
Oui, monsieur Kelvin, au sein de la société, les personnes autistes font l'objet d'une importante stigmatisation, que ce soit au niveau de la famille biologique de la personne ou au niveau de la société entière. Cette stigmatisation est souvent ancrée dans les incompréhensions sociales et les stéréotypes négatifs. Nombreux gens perçoivent donc l'autisme comme une source de déception et cette perception ne joue pas en faveur des personnes autistes dont la majorité se trouve haïe, déconsidérée, délaissée à cause des croyances culturelles loin de la vraie position qu'il fallait prendre pour aider la victime de ce trouble. Donc bref, les personnes autistes sont considérées comme socialement maladroites, émotionnellement distantes et intellectuellement déficientes, une représentation qui dénature même l'autisme et crée des stéréotypes négatifs et la stigmatisation dont ces personnes sont victimes.
Et comment ces perceptions ont-elles évolué au fil du temps?
Bon, au fil du temps, s'il faut parler de l'évolution de la perception, on va aussi aller même dans l'évolution de l'autisme lui-même. Depuis longtemps, les personnes autistes ont fait l'objet d'exclusion sociale et de marginalisation dans la société. L'autisme dans le temps était d'abord décrit comme une forme de schizophrénie infantile résultant d'une éduction parentale froide. La schizophrénie, comme vous le savez, c'est un trouble du comportement qui se caractérise par la rupture d'avec le monde extérieur. Et donc, de cette perception, on est allé à comprendre l'autisme comme un ensemble de troubles du développement et enfin comme un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, dans nos sociétés traditionnelles, l'absence d'études, d'analyse des causes des troubles de ce spectre ramène à l'interprétation même dans un mythe, faisant croire que les causes du dit trouble sont d'origine familiale, du mauvais sort ou de la négligence des parents.
Quels sont les principaux obstacles à l'inclusion sociale des personnes autistes et comment peut-on les surmonter?
Les obstacles, c'est comme nous avons déjà dit, les autistes font l'objet à la stigmatisation importante. Et donc la stigmatisation elle-même, les attitudes discriminatoires, les stéréotypes négatifs constituent des obstacles majeurs à leur intégration sociale et à cela s'ajoute l'absence d'une formation spécifique et d'encadrement adéquat. On peut surmonter ces obstacles, par exemple, par la sensibilisation. Et ça, ça revient aux spécialistes, aux médias, aux familles et même à l'État de fournir des efforts pour en arriver là, en créant des structures, par exemple, de formation et d'encadrement des personnes autistes. Et au niveau de la politique en général, il est crucial de renforcer le cadre légal qui protège cette catégorie de personnes.
Quel est le rôle des familles et des communautés dans l'intégration des personnes autistes, cher Thierry?
Oui, les familles doivent continuer à fournir des efforts dans la réparation, l'encadrement et la formation des enfants, des jeunes et adultes qui sont autistes. Les communautés doivent soutenir les personnes autistes. Les organisations spécialisées doivent mettre en place des plans de campagne de sensibilisation sur la promotion des personnes autistes et leur inclusion sociale pour briser les stigmates et les stéréotypes associés à l'autisme, bâtir des communautés inclusives où toutes les catégories ont un digne accès aux services et aux soutiens nécessaires.
Comment les politiques publiques et les lois peuvent-elles favoriser l'inclusion de personnes autistes?
Je veux dire, dans le cadre même de notre pays, la République démocratique du Congo, les politiques publiques peuvent jouer ou jouent même un grand rôle dans la protection et la promotion des personnes atteintes de ce trouble du spectre d'autisme. Ce rôle est d'ailleurs premier dans ce domaine. Sur le plan légal, par exemple, l'État devrait renforcer l'arsenal juridique qui protège et appuie les droits des autistes, comme cela est le cas pour d'autres catégories de personnes. Vous savez, par exemple, la catégorie des femmes, il y a des lois qui protègent la femme, il y a des lois qui protègent les enfants, il y a des lois qui protègent telle ou telle autre catégorie sociale. Alors, il est utile que même pour les autistes, il y ait des lois spécifiques qui soit élaboré pour les protéger et les promouvoir. Alors, sur le plan infrastructurel, pour parler de leur formation et leur encadrement, l'État devrait construire des centres spécialisés dans chaque province, par exemple, dans chaque territoire, dans chaque entité, pour que ces personnes aussi soient prises en charge, pour qu'elles soient formées et encadrées. Vous savez qu'il y en a qui pensent que les autistes sont des personnes qui ne sont pas normales. Bon, vis-à-vis des troubles que ces personnes ont, nous pouvons, par ignorance, comprendre que ce ne sont pas des personnes normales, mais c'est des personnes qui peuvent jouer de grands rôles dans la société. Et donc, l'État devrait mettre en place un certain mécanisme pour leur encadrement, notamment dans leur formation et leur capacitation. Il peut aller même plus loin, nous parlons là de l'État, jusqu'à créer par exemple un directoire ou un service national des autistes en vue de prendre en charge complètement cette catégorie de personnes. Ces efforts peuvent favoriser évidemment l'inclusion sociale des autistes qui seront utiles à eux-mêmes, à leur famille et à leur société une fois encadrés et pris en charge.
Quelles sont les perspectives pour l'inclusion et la participation sociale des personnes atteintes de l'autisme?
Je vais me référer à un auteur. Il y a un certain Pascal Jacob qui a écrit un livre intitulé « Il n'y a pas de personnes ou alors des citoyens inutiles ». Vous comprenez ce que je voudrais dire là-bas. Donc les autistes, loin des perceptions des uns et des autres, ne sont pas des personnes inutiles dans la société. Leur inclusion sociale suppose aussi donc la rupture avec les stéréotypes négatifs, la stigmatisation et l'exclusion. Donc en bref, nous souhaitons en termes de perspective le changement des perceptions de la société vis-à-vis des autistes qui ont, c'est vrai, des déficiences mentales et autres, mais qui ne sont pas des citoyens inutiles. Il y a lieu de les accepter complètement, les comprendre, les encadrer ou les former, en tenant compte évidemment de leurs spécificités, pour rendre accessibles à eux aussi des services comme la scolarisation, la citoyenneté, l'emploi, la santé, ainsi de suite.
Monsieur Thierry Moutsindoukala, qui est origine, je rappelle que vous êtes sociologue et enseignant des ISP, Institut supérieur pédagogique en province du Nord Kivu. Nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie, messieurs les journalistes.
Et c'est donc par ici que prend fin ces nouveaux numéros du magazine Bana Okapi qui était consacré à l'autisme. Et si vous souhaitez réécouter cette émission, revivre ces moments forts ou découvrir nos autres productions, rendez-vous de maintenant sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Et n'oubliez pas, la discussion ne s'arrête pas là. Rejoignez-nous sur
Notre page Facebook, Bana Okapi, pour partager vos impressions et poser vos questions. Nous serons ravis de vous retrouver et d'échanger avec vous. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Sulamit Kipouli, Jeff Opela, Ezekiel Mouzalia, Plotin Yambenga, Guylaine Kassassia, Pascal Tinamoula, Grasson Bezolo, André Kitenge, Stanislas Dumi, Kelvin Baeni, Greta Lulendo et Sarah Sumbela. Un grand merci également à Christian Mapenda Noyakris pour la coordination de ces programmes, à Jean-Marc Matuaki Monfelele Dijano pour la supervision et à Dieudonné Nyangasa Wanyangasa pour la mise en onde. Je suis Christelle Fritzi à la présentation. À tous nos auditeurs, merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Bana Okapi.